Jour de tempête sur Québec et dans les alentours. Il se passe quelque chose sur la route. Merci de nous en informer. 418-971-1021, 418-971-1021. Presque quoi, 40 cm tombés là, en deux jours, Pascal. Les gars de déneigement vont avoir de la job.
Ben moi, je paye un stationnement. Puis pauvre eux, ils ont pas pu passer. Et pauvre moi, il a fallu que je pèle pendant 1h15.
T'as pelleté un matin?
Oui, comme une vraie.
Il n'y a pas personne qui est venu t'aider.
J'ai-tu besoin ou t'as moi, besoin mes bras m'appellent?
Non, moi, je pense que t'as pas besoin d'un homme, ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir te permettre de passer demain la Saint-Valentin tout seul.
Mais j'aime les hommes, là. S'il y avait quelqu'un que
on
j'aimais,
en doute pas, là,
qui voulait aider, je serais heureuse, mais il a perdu.
Ouais, mais fais-toi-en pas, tu sais. Là, t'auras pas personne pour la Saint-Valentin, fait que, techniquement...
Tu le sais pas.
Techniquement, il y a personne qui t'aime.
Tu le sais pas.
Mais les 364 autres jours non plus. Fait qu'un coup de topo, là.
En même temps, toi, t'es le genre de gars qui me dit de dater pour qu'il y ait quelqu'un qui pèle.
Ben oui!
Ou pose mon rack à télé.
J'ai
Ou...
connu une fille qui organisait des dates tout dépendant de ce qu'elle avait à faire dans son appartement.
Ben, c'est pas mon genre.
Monter un meuble Ikea.
Ouais. Je préfère garder mon rack à TV depuis 6 ans. Là. Non. En même temps, j'étais en couple.
T'es une femme indépendante. C'est moins 11 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 21. Neige parfois forte tout au long de la journée. Ça devrait s'estomper vers minuit ce soir selon Environnement Canada. Et demain, vendredi, ce serait le retour du soleil avec un maximum de moins 9. Et si je regarde le topo pour le week-end, ensoleillé pour samedi, maximum de moins 8. Et dimanche, ce sera de la neige, maximum de moins 10 degrés. Elle est analyste politique. Ça aussi, c'est une femme indépendante comme Pascal qui s'assemble, se ressemble. Antonine Iaccarini, salut.
Allô?
Bon, toi, est-ce que tu as pelleté ou tu as trouvé quelqu'un pour pelleter ta cour?
Moi, je ne suis pas célibataire. Je suis une femme mariée. Et c'est mon chum qui s'y colle.
On le salue!
C'est inclus dans le deal du mariage. Hey, écoute, plein de choses se passent dans l'actualité. Bon, le Grand Range fait brasser beaucoup de choses, autant de son bord qu'à l'international, que du côté du Canada. Les premiers ministres de toutes les provinces s'inquiètent un peu de ce qui peut se passer concernant des tarifs qui vont être assez élevés, là, qui vont rentrer en place dans les prochains jours. On parlait de 25, là, on parle de 50, on ne sait plus trop comment ça va coûter. François Legault, avant-hier, qui a eu une journée assez particulière lundi où il a rencontré aucun élu américain. Ça l'a fait un peu reprocher parce que Doug Ford, lui, avait une journée bien remplie. Il y a eu des images vidéo qui ont été rendues publiques de François Legault qui tentait de s'exprimer en anglais. Beaucoup de difficultés. Puis quand on lui a parlé de l'horaire, de son horaire à lui versus celui de Doug Ford, il a comme semblé un peu irrité. En disant « Inquiétez-vous pas, on va en rencontrer demain », mais tu sais, on le sait, François Legault a énormément de difficultés à s'exprimer en anglais. Puis c'est peut-être pour cette raison-là, tu sais, la lettre qu'on a vue passer, qui a écrite pour les Américains, c'est peut-être un peu pour ces raisons-là qu'on n'a pas le même premier ministre que Daniel Smith en Alberta qui, elle, a décidé d'embarquer dans l'avion puis d'aller rencontrer le Grand Orange, l'autre bord, en personne pendant deux jours. Doug Ford, qui est rendu capitaine Canada. Il me semble qu'on n'est pas grillé ben en premier ministre, Antonine.
Ben, il y a d'autres facteurs qui expliquent, outre la barrière de la langue, là, pourquoi Daniel Smith et Doug Ford sont aussi proactifs. Là, c'est sûr, Doug Ford est en élection aussi, hein, parce que faut toujours se rappeler que les relations internationales, oui, c'est important, surtout en ce moment. Il n'y a jamais rien de plus important que la politique à la maison. Et on peut se servir des relations internationales pour mousser son capital politique à la maison. Doug Ford en a besoin en ce moment parce qu'il est en campagne électorale, ça va se faire réélire. Et Daniel Smith, évidemment, il y a un enjeu énorme pour Daniel Smith, c'est qu'elle fait un peu cavalière seule, étant donné qu'elle a déjà un peu commencé à briser le front commun. Si jamais on voulait, comme pays, décider d'utiliser l'énergie fossile, le pétrole, pour mettre la pression sur les États-Unis, elle a déjà dit qu'il n'en était pas question. Donc, elle joue, elle, un peu son propre jeu. Côté François Legault, c'est sûr que François Legault jouer capitaine Canada, c'est un peu plus compliqué. C'est un premier ministre qui est nationaliste, il dit ne plus être indépendantiste, mais demeure nationaliste. Ça a été très tendu avec le gouvernement fédéral dans les dernières années, hein, beaucoup de chicanes, notamment sur l'immigration, sur les transferts en santé, sur un paquet de choses. Ottawa qui a piétiné sur nos juridictions provinciales depuis l'arrivée du gouvernement Trudeau. Donc, c'est sûr que le positionnement de François Legault, c'est pas aussi simple, même si Doug Ford aussi s'est plaint des empiétements sur ses juridictions, que c'est pas toujours facile avec le gouvernement Legault. Ben, Ford, lui, a trouvé là une occasion à saisir. Il a déclenché les élections en Ontario plus tôt, justement, parce qu'il avait pris ce rôle de capitaine Canada, qui vient aussi compenser le manque de leadership côté fédéral, parce qu'on sait qu'on a un gouvernement qui est dit, on appelle ça un canard boiteux, là, quand la légitimité est moins là, quand on n'est pas premier dans les sondages, quand le Parlement ne fonctionne pas. Donc, M. Legault a-t-il vraiment besoin là, d'être en avant de la parade à tout instant? Moi, je pense que non.
Est-ce que ça pourrait changer sa vision en tant que politicien, justement, la situation actuelle, puis sa vision qui est un petit peu plus très, très centrée Québec, puis les opportunités pour les Québécois, puis le commerce québécois? Est-ce que ça pourrait ouvrir ses horizons parce qu'il est dans une autre réalité maintenant?
Oui, puis l'agenda politique a complètement changé depuis l'arrivée du Grand Orange, comme Yannick l'appelle. D'ailleurs, M. Trump était particulièrement orange cette semaine. Je pense que c'est son rendez-vous de stressant. Donc, l'agenda politique a changé, puis la question de l'urne pour l'élection fédérale aussi a changé. Et il y a un phénomène, quand il y a une crise externe, donc tu as un adversaire externe là, qui t'intimide, qui fait de l'attitude, qui veut te nuire, il y a un phénomène qu'on appelle en anglais « rally around the flag ». Donc, on a tendance à se solidariser autour de notre drapeau, autour de notre gouvernement, même si c'est un gouvernement qui était moins populaire, mais on voit déjà un mouvement dans les sondages. Et ça fait en sorte qu'on va mettre en veilleuse nos intérêts particuliers, les débats internes à l'intérieur du pays. Puis les questions de conflit entre Québec et Ottawa, c'est pas vraiment le moment. Donc oui, il y a comme un moment où on décide de mettre ça un peu sur la tablette. On va pas pousser pour les intérêts particuliers du Québec. On se tourne plus vers les intérêts du Canada en ce moment. Mais ces divisions-là, elles vont nécessairement refaire surface. Et il y a des moments où les intérêts du Canada ou d'autres provinces canadiennes ne seront pas les mêmes que les intérêts du Québec. Et là, ce sera important à ce moment-là que le premier ministre se lève pour nous et s'assure là, que les intérêts du Québec soient respectés. Parce qu'à travers le pays, on n'a pas toutes les mêmes industries, on n'a pas toutes les mêmes ressources. Vous voyez, Danielle Smith qui a décidé, elle, de défendre son turf à elle avec l'industrie pétrolière. C'est possible qu'à d'autres moments, le Québec ait à faire des gestes comme ceux-là. Et ça va être un risque aussi dans les prochaines années de centralisation encore. On voyait Mark Carney parler là, de manière très, très centralisatrice que c'était le temps, là, ça va être à Ottawa de décider ci et cela. Il va falloir quand même se concerter avec les provinces.
Ouais.
On entendait Chrystia Freeland aussi, qui on l'oublie là, parce qu'elle commence à être un peu plus loin derrière dans la course à la direction du Parti libéral du Canada, mais qui disait qu'elle allait forcer les provinces s'il le fallait. Si on décidait de mettre certaines mesures puis que ça faisait pas leur affaire.
Ouais.
Donc, il va y avoir un enjeu de défense du Québec éventuellement, et c'est là que M. Legault va entrer en jeu.
On va devoir se diversifier, là, parce que visiblement, le grand frère veut plus nécessairement tout le temps s'occuper du petit frère. Donc, pour ce qui est de nos exportations, on va devoir se diversifier. Mais prenons exemple Danielle Smith versus François Legault. Elle lutte pour, justement, que le pétrole ne soit pas touché dans les tarifs. Puis François Legault, c'est quoi son levier? Parce que pour ce qui est de l'aluminium, les Américains ont vraiment besoin de notre aluminium. Puis, oui. Ce que Legault veut mettre en place, c'est un 25 ou peut-être un autre 25 supplémentaire, fait qu'un 50%. Mm-hmm. Mais qui va payer ça en bout de ligne? C'est les Américains. Là. C'est la facture le 50%, la facture va être refilée aux Américains. Mais nous, c'est quoi notre levier pour empêcher Donald Trump de faire ça au Québec? Elle a le pétrole. Nous autres, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose.
Ben, on a l'aluminium puis on a l'hydroélectricité. Parce qu'il faut se rappeler qu'on fournit énormément d'électricité dans le nord-est des États-Unis. Il y a beaucoup de foyers qui dépendent de l'électricité d'Hydro-Québec. Est-ce que ça veut dire que demain matin, il faut commencer à menacer de couper l'électricité? Pas nécessairement, mais il faut quand même se rappeler que dans la colonne des forces, on a quand même plusieurs forces aussi. C'est sûr que ça semble toujours démesuré face aux États-Unis. Et il faut être réaliste, c'est le cas. Moi, je pense que notre meilleur levier, là, en ce moment, là, on réagit au quart de tour. Il y a une pression médiatique et politique au Canada pour que tout le monde trouve des solutions. Les politiciens sont sous pression. Mais éventuellement, moi, je crois profondément qu'il va falloir ralentir le rythme, arrêter de réagir à chaque chose que M. Trump dit et diriger ça vers des négociations qui sont plus sereines. Je sais que Donald Trump ne respecte pas l'accord de libre-échange en ce moment de toute façon. Mais avec un intimidateur, il faut que tu mettes un délai à la réponse. Il faut pas que tu réagisses à chaque fois que tu te fais écœurer dans le corridor là, à l'école secondaire. Là. À un moment donné, il faut calmer un peu le jeu. Et je pense aussi que l'autre clé va venir de l'intérieur des États-Unis, c'est-à-dire que, tu le disais, Yannick, ils ont besoin de notre aluminium, de notre acier, ils ont besoin de notre bois aussi. Avec les tarifs et les contre-tarifs, c'est les chantiers aux États-Unis qui sont intimement liés à la croissance économique,
exact,
et à toutes sortes d'autres choses qui vont s'en ressentir. Donc, il faut que le secteur économique américain, il faut que les électeurs, il faut que les médias aussi, puis je sais que les médias sont en perte de vitesse, mais il faut qu'il y ait un mouvement à l'intérieur des États-Unis qui dise « Stop, c'est pas bon pour notre économie, on n'est pas sur la bonne voie » et que la pression soit suffisante pour que M. Trump décide de changer son
fusil d'épaule. OK. Hey, on va revenir au municipal, si tu le veux bien, Antonine Iaccarini. Moi, il y a un gars que j'ai bien aimé chez les conservateurs. Je le trouvais tellement drôle, tu sais. Puis il a quand même eu une bonne job, là, du temps de l'ère Harper. C'est Stephen Blaney. Je voulais le limiter, là. Bonjour, M. Marceau. Comment ça va, M. Marceau? Voulez-vous,
il est tellement gentil.
Voulez-vous faire la traversée du fleuve Saint-Laurent avec moi, M. Marceau? Je vois que vous avez de l'air en forme. T'sais, il est tout le temps super gentil, Stephen Blaney. Est-ce que c'est une bonne candidature pour la mairie de Lévis?
Ben, je pense que oui, puis je crois surtout que les gens à Lévis vont vraiment avoir une élection, ils vont avoir une campagne. Je, vous savez que je m'énerve assez facilement avec la politique, là. Peut-être que tout le monde ne partage pas toujours mon enthousiasme, mais je trouve que les élections municipales cette année, qui vont peut-être prendre un peu moins d'espace dans les médias et tout ça, parce qu'il se passe tellement de choses avec les États-Unis, mais il faut rappeler, l'automne prochain, toutes les municipalités du Québec vont être en élection. À Montréal, ça va être excitant aussi parce que Valérie Plante s'en va. Il va y avoir 1 million de candidats qui se déclarent en ce moment, mais évidemment, il va y avoir un tri qui va être fait là, quand Projet Montréal va avoir choisi son candidat ou sa candidate. À Québec, c'est serré. On ne sait pas encore ça va être quoi tous les candidats. Et à Lévis, quand même la 7e ville en importance au Québec, bien, c'est la fin d'une époque avec le départ de Gilles Laulier. Puis à date, on a 3 candidats déclarés. Donc Serge Bonin, qui est en ce moment le chef de l'opposition, Isabelle Demers qui prend la relève du parti de Gilles Laulier et Stephen Blaney qui s'annonce cette semaine. Donc, ça va être une élection qui est intéressante. C'est vrai que Stephen Blaney, je trouve que c'est une bonne candidature, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les conservateurs ou les idées. C'est quand même quelqu'un qui a été ministre sur la scène fédérale, notamment de la sécurité publique. Des anciens combattants aussi, a été député de 2006 à 2021. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Tu le disais, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui est très réseautage, très, très humain. Donc, je pense que c'est effectivement une bonne option pour les citoyens de Lévis qui décideront dans quelle voie ils veulent aller, s'ils veulent aller dans la continuité avec Mme Demers. D'ailleurs, généralement, les dauphins en politique et dauphines, c'est pas quelque chose qui marche nécessairement toujours. On l'a vu à Québec, dans la campagne électorale, M. Labeaume n'a pas réussi à faire élire sa candidate.
En fait, le soir même, il a réussi et 15 secondes plus tard, il n'a pas réussi.
C'est ça. C'est comme un peu un coït interrompu pour M. Labeaume et sa dauphine.
Ouais.
Mais de toute façon, au municipal, les gens, ils votent pas nécessairement tant pour des partis. Ils vont davantage voter pour des personnes. C'est pour ça que les candidatures vedettes ont tellement d'importance. Ça change la donne, étant donné que les gens sont pas nécessairement fidèles à un parti politique.
Par contre, Stephen Blaney qui annonce ça quand Gilles Laulier a annoncé qu'il ne reviendrait pas. Est-ce que tu penses que, en tout cas, c'est la question que je posais ce matin, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y avait un petit, pas manque de courage, mais une insécurité tant qu'à entrer dans l'arène avec un gars qui est tout le temps hautement élu du côté de Lévis, là?
On s'entend que le fait que Gilles Laulier s'en aille, ça ouvre une fenêtre. Parce qu'au municipal, je disais, on vote pas beaucoup pour les partis. Mais on change pas beaucoup non plus nos maires et mairesses. Hein. Souvent, dans la région, les gens qui se représentent vont être élus. Donc, clairement, M. Blaney a choisi son occasion et le défi risque d'être un petit peu moins difficile que s'il avait décidé de se présenter contre Gilles Laulier. Stephen Blaney n'a pas des idées complètement différentes non plus de M. Laulier, qui va quand même créer des difficultés pour la dauphine de M. Laulier, là, parce que c'est quoi les gros enjeux développement économique, immobilier, la mobilité? C'est pas des enjeux sur lesquels j'ai l'impression que Stephen Blaney va être à l'opposé de M. Laulier ou de Mme Demers.
Puis pour avoir entendu Mme Demers hier, là, qui est le choix de Gilles Laulier, je pense qu'elle aurait besoin de quelqu'un qui l'informe que de parler de soi à la troisième personne, c'est jamais la meilleure
c'est
des
non.
idées dans une conférence de presse.
C'est toujours non, pas juste dans les conférences de presse d'ailleurs, à proscrire.
C'est quoi le leg de Yannick Marceau? Ben Yannick Marceau, son leg, est-ce que c'est vous? Ouais, c'est moi.
Yannick Marceau pense que.
Exact. oui, c'est bon. Hey, puis on termine avec ça. Il reste à peu près 30 secondes, Antonine. Pierre Fitzgibbon, qui s'est fait démissionner juste un peu avant le temps des fêtes, qui était le super ministre, qui était adulé d'un bord et détesté de l'autre. Ce qui a fait en sorte que la circonscription de Terrebonne s'est ramassée en élection partielle. Il y a eu un candidat qui s'est annoncé dans les dernières heures pour la coalition Avenir Québec. C'est un candidat qui est très, très jeune, qui est très méconnu du public, qui gagne peut-être à être connu, tu me le diras. Mais François Legault qui a déjà commencé à parler d'une défaite dans Terrebonne alors que c'est même pas encore commencé.
Il baisse les attentes, c'est le moins qu'on puisse dire. L'élection partielle en Terrebonne, ça va être intéressant parce que c'est un coup de fonde dans le contexte actuel. On voit des sondages, mais là, c'est quand même un test plus important. Le candidat de la CAQ, Alex Gagné, 27 ans, c'est un natif de la région. Il a fondé l'organisme À deux pas de la réussite, qui est un organisme de tutorat quand même intéressant. Oui, il est jeune, mais